Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les discriminations commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre continuent à se manifester dans la société française. En 2017, un tiers des homosexuels masculins a subi des injures ou des agressions liées à leur orientation sexuelle au cours des 12 derniers mois. 20% ont été victimes de discrimination dans un lieu public, 10% sur leur lieu de travail ou études et 9% au sein de leur famille, selon Santé publique France. Prévenir les discriminations en expliquant que l'homosexualité n'est pas une déviance et une sexualité comme une autre. Et l'objectif de plusieurs associations et pouvoirs publics, nous en parlons ce matin à dire avec nos invités.
Nous accueillons Lucille Bluza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'unité santé sexuelle au sein de la direction de la prévention et de la promotion de la santé au sein de Santé publique France. Nous avons sur le plateau Ariel Jean Urbain, Jessima Taba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Afrique Arc-en-Ciel, basée à Paris. Vous êtes membre également de l'association Afrique Avenir, que nos auditeurs ici Africa Radio connaissent bien. Lucille Bluzac, première question. Aïssa Thiam m'a donné quelques chiffres en introduction, mais quelle est l'ampleur en France, d'une manière générale, des discriminations aujourd'hui que rencontrent les homosexuels?
Alors, elle est encore trop importante. Nous avons des chiffres de 2019 qui montrent que 35% des personnes LGBT ont fait l'expérience d'au moins une forme de discrimination au cours de leur vie en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Et on voit en fait que les gays et les lesbiennes sont deux à trois fois plus exposées à des violences psychologiques, verbales, physiques ou sexuelles que les personnes hétérosexuelles. Et on a encore des chiffres qui sont difficiles à obtenir, mais beaucoup plus important pour les personnes trans. Donc on voit que ces discriminations sont encore très fortes malgré de grandes avancées dans le pays. Et ces discriminations et violences ont des répercussions fortes sur la vie des gens.
Alors justement, quelles sont les différentes formes de discrimination que rencontrent aujourd'hui ces personnes?
Alors, il y a des violences et des insultes dans les lieux publics qui sont très fréquentes, mais les discriminations en tant que telles, c'est-à-dire vraiment un traitement inégalitaire, se font beaucoup à l'école ou à l'université, au travail, également dans l'accès au logement et dans l'accès aux soins et à la santé. On retrouve également des discriminations et des traitements inégalitaires dans le sport et même s'ils ne sont pas des discriminations au sens juridique du terme, il y a quand même beaucoup aussi de violence et de rejet dans les familles, au sein de la famille. Donc on voit que c'est un petit peu partout. Voilà. Et ce sont des personnes qui, bon, comme les autres, peuvent cumuler différents sujets de discrimination. On sait que les personnes LGBT d'Afrique subsaharienne ou afro-caribéenne sont en plus soumises à un double stigmate.
Justement, Ariel, Jean Urbain, Jessima Taba, est-ce que cette discrimination touche en particulier les personnes originaires d'Afrique, des Antilles et des Caraïbes qui vivent en région parisienne?
Exactement, ces discriminations touchent beaucoup de ces personnes qui vivent en région parisienne, qui sont originaires donc d'Afrique noire, des départements français d'Amérique ou même de la Caraïbe, et on en voit régulièrement. Et Lucie le disait, les chiffres sont vraiment exponentiels au niveau de ces discriminations, qui fragilisent davantage toutes ces personnes et qui les rendent et qui les mettent même dans une situation de précarité inqualifiable.
Donc ça veut dire que vous constatez une hausse des discriminations dans l'accès au logement ou à l'emploi en raison de leur orientation sexuelle?
Tout à fait. D'ailleurs, ils nous le disent régulièrement quand ils passent nous voir lors de nos permanences pour nous dire à quel point, à cause de leur orientation sexuelle, ils ont été purement et simplement pas autorisés à avoir tel logement ou même un emploi, ou même, comme le disait Lucille, au niveau du sport, ou même dans les familles, on le voit régulièrement, où les personnes sont malheureusement discriminées en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre.
Ariel, Jean Urbain, Jessima Taba, on en a parlé un petit peu avant de commencer cette émission. Vous constatez aussi que beaucoup de réfugiés qui ont quitté le continent africain, qui se sont installés en France, ont quitté leur pays en raison de leur homosexualité. Quelle est l'ampleur de ce phénomène, si on peut dire?
L'ampleur est immense. On en voit quasiment tous les jours. Tous les jours qui, malheureusement, sont obligés de quitter leur pays d'origine, pour ceux de l'Afrique noir, francophone ou anglophone, en raison de la découverte de leur orientation sexuelle par leurs parents. Et donc, ils prennent des risques énormes. Pour beaucoup, ils sont obligés de traverser la Méditerranée et d'arriver en France pour essayer donc d'être sous la protection internationale. marginale de la France au moyen d'une demande d'asile. Et donc, c'est très difficile pour ces personnes et on en voit quasiment tous les jours qui passent à nos permanences.
Mmh. Est-ce que cette situation concerne seulement les hommes ou aussi les femmes? Et est-ce que les violences touchent-elles aussi bien les hommes que les femmes?
Tout à fait. Je dirais, on a autant d'hommes que de femmes qui viennent et que nous accueillons tous les jours dans nos permanences. Et c'est d'autant plus difficile pour ces femmes qu'elles ont subi, comme les garçons, des violences tout au long du parcours migratoire. Et une fois arrivées en France, c'est pas aussi évident que ça. Donc, ça multiplie encore les difficultés, les vulnérabilités. Et pour les femmes, c'est vraiment un combat à mener au quotidien parce que en plus de son homosexualité qui a été découverte, c'est une femme qui peut subir des violences sexuelles, que ce soit dans le parcours ou même une fois arrivée en France. Donc, tout cela fait qu'on a aujourd'hui un gros problème de santé publique et à la santé mentale des personnes qui nous arrivent comme ça et ont fui leur pays d'origine en raison de la découverte de leur orientation sexuelle ou identité de genre.
Lucie Bluza, concernant les violences, est-ce que les violences physiques, j'entends, est-ce qu'elles touchent aussi bien les hommes que les femmes?
J'ai pas de chiffres précis sur les violences physiques. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les discriminations et les violences, qu'elles soient psychologiques, verbales ou physiques, touchent aussi bien les hommes que les femmes. On aurait tendance à penser que les femmes sont un petit peu moins sujettes aux violences physiques, et je pense que c'est une fausse idée. On voit qu'elles rapportent autant, en fait, d'injures et d'agressions, par exemple, dans la rue, et voire même plus que les hommes. Et pareil, leurs déclarations de violence au sein des familles et au travail, dans des endroits où les gens les connaissent, sont aussi plus importantes. Hein. Elles en déclarent plus que les hommes. Et je voulais souligner aussi que les personnes trans sont très soumises aussi aux violences. On le voit beaucoup ressortir, et les femmes trans particulièrement.
Lucille Blizzard, il y a également les violences verbales, hein, les insultes. 41% des employés entendent des expressions LGBT-phobes dans leur organisation, telles que enculé, pédé. Selon le baromètre de Santé publique France de février 2020. Alors, est-ce que selon vous, il y a une banalisation des insultes et des propos homophobes aujourd'hui?
Je pense qu'elle était déjà là, c'est-à-dire que ces propos sont banalisés. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui les emploient n'ont pas l'impression, en fait, d'être insultants. C'est presque passé, en fait, dans le langage. Hein. Bon, c'est quand même ordurier, mais c'est presque passé dans le langage. Mais ils ne se rendent pas compte du poids de ces mots et de la violence que cela donne pour les personnes qui ne se sentent pas en sécurité quand ils entendent ces insultes et ces propos homophobes qui sont donnés tout le temps, en fait, au travail, à l'école, et parfois même dans les familles.
Alors, en octobre 2008, la ministre chargée de la Santé lançait un concours de scénarios ouvert aux 16-30 ans, organisé par l'INPES en partenariat avec Canal+. L'objectif de ce concours était de lutter contre l'homophobie et ses conséquences. Il y a eu plusieurs scénarios, plusieurs films qui ont été retenus, dont Omar. C'est l'histoire, donc ce film raconte l'histoire d'Omar, un jeune homosexuel qui vit dans une cité qu'il aime, mais où la pression est telle qu'il ne peut vivre ni même révéler son homosexualité. Mais un jour, pourtant, son père apprend son homosexualité. Je vous propose d'écouter un extrait.
Je ne me calme pas. Je sens que je vais le tuer. Dans la cité, tu te rends compte? Moi, je sens dehors, les gens me regardent. Partout, je vais, les gens me regardent. J'entends parler chez moi. Mais c'est la honte. Tais-toi, toi. Regarde-moi.
Regarde-moi, je te dis. Je ne veux plus entendre ce que j'ai entendu. Je ne veux plus qu'on me regarde comme on m'a regardé. Maintenant, tu vas faire comme tous tes potes et tu vas tous les faire mentir. Attends, disparais.
Du haut de ma tour, tout autour de moi se fend. Je reste seul avec l'inqualifiable, l'inacceptable, l'innommable. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais je suis un PD.
Omar, qu'est-ce que tu fais?
Exposé au regard acéré de ma cité, je préfère m'en garder. Refuser d'être enfermé dans mon quartier, d'entendre insidieux les mots venant sur mon chemin. Alors amer, je quitte cette terre qui m'est si chère.
Hey Omar, matos tout neuf.
Qu'est-ce qu'il faut? Vas-y, rassis-toi là. Toi aussi t'es PD ou quoi? Bouffon.
Ariel, Jean Urbain, Jessie Mataba, alors est-ce que ce genre de situation, on le voit, c'est très lourd, est-ce que vous en rencontrez souvent au sein de l'association des jeunes dont les parents apprennent l'homosexualité et ça se passe mal?
Malheureusement, oui. Malheureusement, en réécoutant cet extrait de ce scénario sur Omar, je sentais l'émotion monter parce que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, même encore aujourd'hui en 2021. Et pire encore avec la crise sanitaire actuelle qui a accentué les vulnérabilités de ces filles et de ces garçons qui ont été confinés pour beaucoup avec leurs parents. Et ça a été l'occasion pour les parents de découvrir l'orientation sexuelle de leur fille ou de leur garçon. Et beaucoup se sont retrouvés à la rue. Il a fallu les récupérer. Il a fallu chercher les moyens d'urgence pour les mettre à l'abri, mais vraiment les mettre à l'abri. Et donc, c'est pour dire que ça continue encore aujourd'hui. Et c'est d'autant plus affligeant que ce sont des enfants qui sont afrodescendants, qui sont nés ici, qui sont français, qui ne connaissent même pas le pays d'origine de leurs parents, qui ont immigré, voilà, 3-4 décennies. Et on se retrouve dans ces situations violentes qui mettent les enfants dehors, tout simplement parce que ben, l'enfant n'est pas dans la norme.
Et est-ce que... Concernant les chiffres, quelle est l'ampleur de ces jeunes hein, qui quittent leur famille, qui ont été rejetés par leur famille en raison de leur homosexualité ?
Nous n'avons pas de chiffres documentés, mais il faut dire que l'ampleur est très grande. Sur une dizaine de jeunes qui viennent en semaine à nos permanences, sur les 10, on a au moins 7 qui ont été rejetés par les parents. Mmh. Et ça peut être un rejet.
Mais ce sont des mineurs? Comment ça se passe? Comment ça se passe quand ce sont des mineurs, par exemple?
Alors, quand ce sont des
majeurs,
mineurs, nous les orientons vers les structures adaptées qui prennent en charge, donc, l'enfance, donc les mineurs. Quand ce sont des jeunes adultes, 18, 19, 20 ans, nous les prenons en charge avec nous. Nous essayons de trouver les solutions pour les mettre à l'abri. Et ce qui est encore vicieux dans cette histoire, c'est que, un jeune garçon me disait récemment, je préfère que mon père me mette carrément à la maison, quand on prend le cas du scénario d'Omar, plutôt que d'avoir une attitude insidieuse où chaque jour, il me fusille du regard, où chaque jour, à travers son regard, il me dit « tu n'es pas le bien-aimé, il faut que tu partes ». Et ça, c'était pénible à vivre pour ce jeune garçon.
Lucie Blusard, est-ce que vous constatez aussi qu'il est plus difficile de lutter contre les préjugés dans les familles originaires d'Afrique noire et du Maghreb ?
Alors, pas spécialement plus difficile, pas plus que dans toutes les familles. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ces personnes sont plus souvent originaires de pays où l'homosexualité et les transidentités sont pénalisées, sont réprimées. Et en fait, malgré l'exil, qui parfois est ancien, les valeurs, la culture du pays d'origine est importante et on voit aussi qu'elle est importante dans la transmission dans les familles. Et ça ne favorise pas l'acceptation. Même si le pays d'origine, parfois, à une législation qui a évolué. Les gens restent attachés à ces choses-là et c'est là où en fait ça peut être en fait différent par rapport à d'autres familles, et c'est là où c'est important, la place des pères, la place des personnes, des leaders communautaires est importante. La place des autres familles, de la communauté est importante pour dire non, nous avons évolué, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et c'est pour ça que la communauté est importante dans ces familles. Ce soit plus difficile spécialement que dans d'autres, je ne pense pas. Je pense que ça doit être abordé différemment.
Ariel Jean Urbain, Jessie Mataba, est-ce que l'homosexualité reste encore tabou, hein, selon vous, hein, dans les familles africaines et maghrébines? Et est-ce en raison du poids de la religion?
Ça reste encore tabou et ce n'est pas seulement raison du poids de la religion, hein, c'est la religion a beau dos. Quand on veut rejeter son enfant en raison de son orientation sexuelle, c'est culturel, c'est encore dans ces pays-là, c'est criminalisé, c'est puni, et donc cette mentalité fait que on a encore du mal à aborder cette question dans beaucoup de familles afro-caribéennes.
Alors justement, on se dirige vers le Cameroun où deux transgenres camerounais ont été condamnés mardi par un tribunal de Douala à 5 ans de prison, notamment pour, je cite, tentative d'homosexualité et outrage public aux mœurs. C'est une peine très très lourde selon les avocats. Quelle est votre réaction?
Ben une double réaction, déjà une tristesse pour Shakiro et Patricia, qui sont deux femmes très battantes, très courageuses, et qui sont injustement condamnées tout simplement parce qu'elles veulent exister en tant que femmes, ce qu'elles sont. Et déception parce que, en dépit des efforts faits par les associations qui défendent les droits des personnes LGBTQ au Cameroun, la société civile notamment, eh bien, on est encore confronté à tous ces blocages. Mais j'ai bon espoir sur la combativité, la pugnacité de la société civile camerounaise pour faire avancer les choses.
Vous avez été en contact avec elle ?
Avec elle, avec Shakiro notamment, qui est une amie, qui est une femme très forte. Et je sais que de là où elle est, c'est que voilà, nous l'accompagnons dans ce combat. Et très prochainement, nous la reverrons.
Alors, selon Alice Nkom, que vous connaissez certainement, oui, qui est présidente de l'Association pour la défense des droits des homosexuels au Cameroun, avec cette décision, le message est clair, les homosexuels n'ont plus de place au Cameroun.
Je partage l'avis de Maître Nkom et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je disais tantôt que je garde bon espoir sur le travail fait par Maître Alice Nkom et tous les professionnels du droit au Cameroun, y compris les associations qui défendent les droits des personnes homosexuelles. Cette condamnation de nos deux militantes ne fera que leur donner encore plus d'entrain pour continuer à mener ce noble combat.
Lucile Buzat, Santé publique France, va lancer une nouvelle campagne de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, avec plaisir. À partir de lundi prochain, la journée de lutte contre la journée, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie, nous allons lancer une grande campagne et vous verrez donc à la télévision des films, il y aura des affiches dans la rue et puis des annonces presse et sur Internet. En fait, une campagne qui affirme l'importance de lutter contre les discriminations et les violences faites aux LGBT. Notre campagne, elle montre l'importance du soutien des proches, du soutien de la famille et de l'entourage pour lutter contre en fait ces violences. Elle donne des pistes pour agir et pour protéger ses proches, ses enfants, les gens qu'on aime et qui sont dans cette situation et qui subissent des discriminations. On a aussi un site qui s'appelle questionsexualité.fr sur lequel on va mettre en ligne des témoignages de familles qui ont vécu le coming out d'un proche. Et en fait, comment ça s'est passé, comment s'est passé le chemin vers l'acceptation, et nous pensons que l'idée, c'est vraiment de valoriser en fait le positif, l'accueil des personnes LGBT. On voit trop souvent le négatif. Il faut montrer qu'il y a des choses à faire et qu'on peut agir. Le but de la campagne.
Alors Lucie Bluzat, que faut-il améliorer dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine de la prévention, de la communication même, hein, parce que donc c'est une nouvelle campagne avec de nouveau des films, des messages, mais que faut-il améliorer pour vraiment frapper les esprits ?
Pour nous, c'est un peu l'idée de la campagne, je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas détourner le regard. Ils ne peuvent pas attendre que ça passe, se taire pour ne pas faire de vagues. C'est trop important et ça a trop de répercussions mauvaises sur la vie des gens. En fait, il faut prendre la parole, il faut affirmer son soutien. En fait, les intolérants ne doivent plus être ceux qui parlent le plus fort. C'est vraiment ça qu'il faut améliorer dans la sensibilisation. Parce que pour les personnes LGBT, sentir le soutien, se sentir accompagné, savoir que certains, même si pas, ce n'est pas tous, mais que certains sont là, c'est vraiment nécessaire pour rester fort, pour se battre. Et c'est très important.
Justement, la même question à Ariel, Jean Urbain, Jessima Tabac, que faut-il selon vous améliorer pour la sensibilisation selon vous ?
Mais ce qu'il faut améliorer, c'est effectivement prendre le taureau par les cornes et oser dire les choses. Oser dire les choses et faire entendre la voix des LGBTQI. Et d'ailleurs, le travail de médiation qui nous est parfois amené à faire a montré que finalement, les parents dans certaines familles ne sont pas si bornés que ça. Il suffit de prendre le temps de leur expliquer les choses avec les mots qui sont les leurs. Ils comprennent et finalement, ça détend l'atmosphère et tout le monde se retrouve heureux.
Alors, quelles sont les principales actions de sensibilisation que vous faites au sein de l'association Afrique Arc-en-Ciel à Paris ?
Déjà, nous travaillons autour du vécu de l'homosexualité en tant que personne noire, parce que un des premiers combats à mener, c'est l'acceptation par la personne elle-même de son homosexualité, ce qui n'est pas gagné quand cette personne a évolué dans un contexte hostile à l'homosexualité. Donc, il faut travailler là-dessus. Et ensuite, nous faisons beaucoup de la médiation auprès des familles ou auprès de certaines institutions pour amener les uns et les autres à pouvoir comprendre que finalement, l'homosexualité est une sexualité comme toute autre, et par conséquent, il faut aussi la regarder différemment qu'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux parents dont les enfants sont homosexuels et qui le vivent mal ? Est-ce que vous avez eu des cas, par exemple, où vous avez reçu des parents en colère et après avoir appris l'homosexualité de leurs enfants ?
Tout à fait. Il y a quoi ? Un mois, j'avais au téléphone une mère à Strasbourg qui appelait parce qu'elle a découvert que sa fille a une préférence pour les filles comme elle. Et j'ai fait le déplacement pour aller la voir et je lui ai demandé qui avait mis au monde cette fille. Elle m'a regardé en disant, mais c'est moi. Voilà. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez que votre fille est allée acheter son homosexualité au supermarché en face? Voilà. Donc, des petites choses comme ça, on a discuté, on a échangé. Au final, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de différence entre elle et sa fille, entre sa fille et d'autres personnes, et que finalement, c'est la sexualité de sa fille, qu'elle est épanouie dans cette sexualité-là, et qu'il n'y avait pas de raison de vouloir faire de sa fille autre chose que ce qu'elle est. Ça prend du temps. Il faut du temps pour accompagner. Et au final, effectivement, aujourd'hui, c'est une maman heureuse avec sa fille.
Alors, qu'est-ce que vous dites aux parents, par exemple, qui pensent que l'homosexualité, c'est une maladie?
Mais tout simplement, il faut les emmener à comprendre que si c'était une maladie, au sens médical du terme, depuis longtemps, les gens seraient guéris. On se bat aujourd'hui pour trouver des médicaments, des vaccins, on aurait trouvé celui-là. Or, depuis que le monde est monde, on en parle toujours, ce qui veut donc dire que ce n'est pas une maladie, que c'est une sexualité comme toutes les sexualités, et qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire la politique de l'autruche.
Ariel, Jean-Urbain, Justine Mataba, êtes-vous suffisamment dans vos actions au sein de l'association soutenue par les pouvoirs publics?
On aurait aimé encore un soutien plus important, mais il n'en demeure pas moins que les pouvoirs publics, à l'heure d'aujourd'hui, font ce qu'ils peuvent, pour nous accompagner dans ce travail.
Lucille Blusage, je sais que c'est pas votre domaine, ça ne concerne pas la santé, mais sur le plan judiciaire, est-ce que vous pensez qu'il faut aussi que la justice soit plus sévère contre les auteurs de violences homophobes à l'encontre des homosexuels?
Alors, ça n'appartient pas de parler de sévérité. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il faut que les gens osent dire qu'ils subissent des violences et des discriminations, et malheureusement, ils ne le disent pas assez. Et on appliquerait au moins le droit qui existe, car le droit existe pour protéger les gens. Il y a une plateforme qui s'appelle antidiscrimination.fr qui a été montée il y a quelques semaines par le défenseur des droits, et qui permet aux gens d'être accompagnés par des juristes et de découvrir que ce qu'ils subissent, c'est de discrimination, et qu'ils peuvent être aidés et avoir une issue judiciaire. Il faut déjà dénoncer. Après, voilà, la sévérité, commençons par dénoncer, car il y a des choses qui existent pour protéger les gens.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation sur ce sujet des discriminations commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité des genres. Vous pourrez télécharger, chers auditeurs, cette émission sur les réseaux d'Africa Radio. Merci à vous, Lucille Blusage. Je rappelle que vous êtes membre de l'unité santé sexuelle au sein de la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé Publique France. Merci à vous. Merci à Ariel Jean, Urbain, Jesse Mataba d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous êtes le cofondateur en Ile-de-France de l'antenne de l'association Afrique Arc-en-Ciel, et vous êtes aussi membre de l'association Afrique Avenir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à Nadir d'avoir préparé à cette émission. On se retrouve demain.